L'étrange chevauché de Morrowby Jukes. Vie ou mort, il faut choisir. Proverbe indigène. Il n'y a, comme disent les prestidigitateurs, aucune supercherie dans ce conte. Jukes tomba par hasard sur un village dont tout le monde connaît l'existence, quoiqu'il soit le seul Anglais à y avoir pénétré. Une institution de genre analogue florissait naguère dans la banlieue de Calcutta, et on raconte que si l'on s'enfonce au cœur du Bikanir, qui est le cœur du grand désert indien, ce n'est pas un village, mais une ville qu'on y trouve. Une ville où les morts qui ne sont pas morts mais qui ne peuvent plus vivre ont établi leur quartier général. Et comme il est parfaitement avéré que, dans le même désert, se rencontre une cité merveilleuse où tous les riches usuriers se retirent après fortune faite, fortune telle que leurs propriétaires ne se fiaient même à la force du bras gouvernemental pour les défendre, et là, sous la protection des sables arides, se promènent en 8 ressorts, achètent de belles filles et décorent leur palais d'or, d'ivoire, de faïence et de nacre. Je ne vois pas pourquoi l'histoire de Jukes ne serait pas vraie. C'est un ingénieur civil, pourvu d'une tête organisée pour les plans, les distances et autre chose de la sorte. Et il ne prendrait certainement pas la peine d'inventer des contes de trappes imaginaires. Il gagnerait davantage à faire son vrai métier. Il ne varie jamais dans son récit et ne manque pas de s'échauffer et de s'indigner fort au souvenir du traitement irrespectueux dont il fut l'objet. Il écrivit ceci tout à trac d'abord, mais depuis, il a fait des retouches et introduit des réflexions morales. Voici. Pour commencer, la cause de tout fut une légère attaque de fièvre. Mon travail m'obligeait à vivre sous la tente pendant quelques mois entre Pakpatan et Moubarakbourg, un pays désolé, tout en pleine de sable, comme savent tous les gens qui ont eu le malheur d'y vivre. Mes coulis n'étaient ni plus ni moins exaspérants qu'une autre clique, et mon travail réclamait une attention suffisante pour me préserver des idées noires quand même j'eusse été enclin à s'y lâcher faiblesse. Le 23 décembre 1884, je me sentis un peu de fièvre. C'était la pleine lune cette nuit-là, et en conséquence, tous les chiens aux environs de ma tente hurlaient après. Les sales bêtes s'assemblaient par 2 et 3, c'était à rendre frénétique. Peu de jours auparavant, j'avais tué un des ténors les plus bruyants et suspendu sa carcasse in terrorem à 50 mètres de l'entrée de ma tente. Mais ses amis tombèrent dessus, livrèrent bataille et finalement dévorèrent le cadavre. Après quoi, il me sembla qu'ils chantaient leurs hymnes de grâce avec un redoublement d'énergie. Le léger délire qui accompagne la fièvre agit différemment suivant les gens. Mon irritation fit place, au bout de quelque temps, à l'idée fixe d'exterminer un énorme dogue noir et blanc qui avait mené les cœurs aussi bien que la fuite pendant toute la soirée. Grâce à ma main tremblante et à ma tête qui tournait, je l'avais déjà manqué 2 fois des 2 coups de mon fusil, quand je fus frappé par l'idée que le meilleur plan était de le forcer en pleine, à cheval, et de l'achever à la lance de sanglier. Ce n'était là, naturellement, qu'une imagination de fiévreux dans son demi-délire, mais je me rappelle que sur le moment, cela me frappa comme éminemment pratique et faisable. J'ordonnai donc à mon groom de sceller Pornic et de l'amener doucement par derrière ma tente. Une fois le poney là, je m'ôtai à sa tête, prêt à sauter en selle et piquer de l'avant dès que le chien élèverait la voix de nouveau. Pornic, entre parenthèses, n'avait pas quitté ses piquets depuis 2 jours. L'air de la nuit était vif et mordant, et j'étais armé d'une paire d'éperons persuasifs, particulièrement longs et pointus, qui m'avaient servi à dégourdir un cop paresseux cet après-midi-là. Vous comprenez sans peine qu'une fois libre d'aller, il alla vite. Au premier instant, l'animal s'emballa, droit devant lui comme un i. La tente disparut derrière nous, et nous volâmes sur le sable uni au galop de course. Un moment plus tard, nous avions dépassé le misérable chien, et je me rappelais à peine pourquoi j'avais pris cheval et lance à sanglier. Le délire de la fièvre, la surexcitation d'une course rapide au grand air, durent alors m'enlever le reste de mon bon sens. Je me revois vaguement dans mes souvenirs, tout debout sur mes étriers, brandissant ma lance à sanglier vers la grande lune blanche qui suivait d'un si calme regard mon galop affolé, et jetant des cris de défi au buisson d'épines à chameaux comme il sifflait au vent de ma fuite. Une fois ou deux, je crois, je perdis l'équilibre en avant sur le coup de Pornic, et me cramponnai littéralement par mes éperons quand me montrèrent les marques le lendemain matin. La malheureuse bête fonçait de l'avant comme une chose possédée, à travers ce qui me semblait un espace sans limite de sable éclairé par la lune. Ensuite, je me rappelle que le sol se dressa soudain en face de nous, et comme nous atteignions le sommet de la montée, je vis les eaux du Sutlej luire au-dessous en une barre d'argent. Alors, Pornic broncha, tomba lourdement sur le nez, et nous roulâmes ensemble le long d'un talus invisible. Je dois avoir perdu connaissance, car, en revenant à moi, je gisais sur le ventre dans un tas moelleux de sable blanc, et un jour incertain commençait à poindre à la crête du talus en bas duquel j'étais tombé. Comme la lumière croissait, je vis que j'étais au fond d'une sorte de cratère de sable en fer à cheval, ouvrant directement d'un côté sur les hauts fonds du Sutlej. Ma fièvre m'avait abandonné du coup, et, sauf un léger étourdissement, je ne me sentais pas plus mal de ma chute nocturne. Pornic, qui se tenait debout à quelques mètres plus loin, avait l'air comme de juste passablement exténué, mais pas l'ombre d'une atteinte. Sa selle, ma selle favorite de Polo, était toute cabossée et lui avait glissé sous le ventre. Je pris quelque temps à remettre les choses en état, et ce faisant, j'eus tout loisir d'examiner l'endroit où j'étais si sottement tombé. Au risque de lasser l'attention, il me faut absolument les décrire en détail. D'autant qu'une représentation mentale exacte de ces particularités aidera matériellement le lecteur à comprendre ce qui suit. Imaginez donc, comme je le disais tout à l'heure, un cratère de sable en fer à cheval, avec des parois de sable à pente raide d'environ 35 pieds de haut. La pente, je crois, devait approcher de 65 degrés. Ce cratère enfermait un espace de terrain plat d'environ 50 mètres de long sur 30 dans sa partie la plus large, avec un puits grossier au centre. Autour du fond du cratère, à 3 pieds environ du sol proprement dit, régnait une rangée de 83 trous semi-circulaires, ovoïdes, carrés ou polygonaux, tous d'environ 3 pieds d'ouverture. Chaque trou vu de près apparaissait soigneusement étayé à l'intérieur du bois flotté de bambou, et au-dessus de l'entrée, un auvent en bois, comme la visière d'une casquette de jockey, saillée de 2 pieds. On n'apercevait aucun signe de vie dans ces tunnels, mais tout l'amphithéâtre était envahi d'une odeur à vous soulever le cœur. Une odeur plus infecte que j'en ai jamais rencontrée au hasard de mes excursions dans les villages hindous. Ayant réenfourché Pornic, qui avait hâte autant que moi de retourner au camp, je fis le tour de la base du fer à cheval afin de trouver un endroit par où la sortie fut possible. Les habitants du lieu, quels qu'ils pussent être, n'avaient pas jugé à propos de se montrer, aussi me trouvais-je livré à mes propres ressources. Ma première tentative de lancer Pornic sur les talus de sable escarpé me fit voir que j'étais tombé dans une trappe exactement du même modèle que tend le fourmilion à sa proie. À chaque pas, le sable mouvant coulait d'en haut par tonnes et résonnait sur les auvents des trous comme de la cendrée. De charges inutiles nous envoyèrent rouler tous deux au fond, à demi étouffés sous les torrents de sable, et je fus contraint de tourner mes regards vers la rivière. Ici, tout semblait assez facile. Les dunes, il est vrai, descendaient jusqu'au bord de l'eau, mais il y avait nombre de bancs et de hauts fonds à travers lesquels, d'un temps de galop, je trouverais à regagner la terra firma en tournant court à droite ou à gauche. Comme je conduisais Pornic par la figure à travers les sables, le faible bruit d'un coup de feu de l'autre côté de la rivière me fit tressaillir. Et au même instant, une balle tomba avec un ouït aigu tout près de la tête de Pornic. Il n'y avait pas à se tromper sur la nature du projectile. C'était un pruneau d'ordonnance, une balle de Martini Henry. 500 mètres environ plus loin, un bateau indigène stationné à l'ancre au milieu du courant, et le jet de fumée qui s'élevait de l'avant à travers le calme de l'air matinal m'apprit d'où m'arrivait cette délicate attention. Jamais un spectacle bourgeois se vit-il d'un pareil impasse. Le traître talus de sable ne permettait aucune évasion de ce lieu par moi visité le plus involontairement du monde. Et une promenade sur le front que baignait la rivière donnait le signal d'un bombardement de la part de quelque indigène dément posté dans un bateau. J'ai peur de m'être mis fort en colère. Une autre balle me rappela que je ferais mieux de garder quelques souffles de vie pour refroidir ma soupe, et je me hâtai de battre en retraite en arrière des sables et vers le fer à cheval, où je m'aperçus que le bruit du fusil avait fait sortir 65 êtres humains des trous de blaireaux que j'avais jusqu'alors supposés sans locataire. Je me trouvais au milieu d'une foule de spectateurs, 40 hommes environ, 20 femmes et un enfant, lequel ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Ils étaient tous maigrement vêtus de cette étoffe couleur saumon qui s'associe aux réminiscences des mendiants hindous, et, à première vue, ils me donnèrent l'impression d'une bande de répugnants fakirs. La sordidité et l'aspect repoussant de cette assemblée dépassaient toute description, et je frissonnais à l'idée de ce que devait être leur vie au fond des trous de blaireaux. Même de nos jours, où l'autonomie des gouvernements locaux a détruit en grande partie le respect de l'indigène pour le sahib, j'ai conservé l'habitude d'une certaine somme de politesse de la part de mes indigènes, et, en approchant de la foule, je m'attendais naturellement à ce que ma présence fût l'objet de quelque attention. À vrai dire, c'est ce qui arriva, mais en aucune façon comme je m'y attendais. La troupe, déguenillée, se mit à rire, d'un rire comme j'espère n'en entendre plus jamais de semblable, et glousser, piauler, hurler, siffler comme j'entrais au milieu d'eux. Quelques-uns se jetaient littéralement par terre dans des convulsions d'ignoble joie. En un instant, j'avais laissé aller la tête de Pornic et, irrité au-delà de toute expression par les aventures de la matinée, je me mis à cogner à poing fermé et de toute ma force sur ceux qui se trouvaient les plus près de moi. Les misérables tombèrent sous mes coups comme des quilles, et le rire fit place à des cris plaintifs de grâce, tandis que ceux qui n'avaient pas encore été touchés m'embrassaient les genoux et m'imploraient en toutes sortes de langues bizarres de les épargner. Parmi le tumulte, et au moment où je commençais à me sentir très honteux d'avoir cédé si vite à ma mauvaise humeur, une voix fluette, aiguë, murmura en anglais par-dessus mon épaule « Sahib, Sahib, ne me reconnaissez-vous pas? Sahib, c'est Gunga Das, le maître télégraphiste !» Je fis demi-tour sur le champ et face à l'interlocuteur. J'avais connu Gunga Das, je n'ai pas, cela va de soi, la moindre hésitation à mentionner son nom véritable, 4 années auparavant. C'était un brahmine du Deccan, prêté par le gouvernement du Punjab à l'un des états de Kalsi. On lui avait confié là un bureau secondaire de l'administration du télégraphe, et lors de notre dernière rencontre, c'était un fonctionnaire jovial, ventru, de port avantageux, et doué d'une merveilleuse capacité pour faire de mauvais calembours en anglais, particularité qui m'en fit souvenir longtemps après que j'oubliais les services à moi rendus dans ses capacités officielles. Il arrive rarement qu'un hindou fasse des calembours anglais. Aujourd'hui, toutefois, l'homme était changé à ne plus reconnaître. Marque de caste, ventre et parler onctueux, de tout cela, plus rien. J'avais sous les yeux un squelette flétri, sans turban, presque nu, avec de longs cheveux collés en mèche et des yeux caves pareils à des yeux de morue. Sans une cicatrice en forme de croissant sur la joue gauche, suite d'un accident dont j'étais responsable, je ne l'aurais jamais reconnu. Mais c'était indubitablement Gunga Das et, j'en remerciais le ciel, un indigène parlant anglais, capable, au moins, de m'expliquer tout ce qui m'était survenu ce jour-là. La foule se recula à quelque distance, tandis que je me retournais vers le misérable objet en lui ordonnant de me montrer quelques moyens de m'échapper du cratère. Il tenait à la main une corneille fraîchement plumée, et en réponse à ma question, il gravit d'un pas lent une plateforme de sable où s'ouvrait la ligne des trous, et se mit, silencieusement, en devoir d'y allumer un feu. Chien dans sec, pavot de sable et bois flotté brûlent vite, et je tirai quelque consolation du fait qu'il y mit le feu au moyen d'une allumette soufrée ordinaire. Quand ils formèrent un brasier devant lequel dûment embroché fut placée la corneille, Gunga Das commença sans un mot de préambule. « Il n'y a que 2 sortes d'hommes, monsieur, les vivants et les morts. Quand vous êtes mort, mais quand vous êtes vivant, vous vivez. » Ici, la corneille, qui se recroquevillait au feu en grand danger d'être réduite à l'état de charbon, réclama son attention un moment. « Si vous mourrez chez vous et que vous ne soyez pas mort lorsque vous arrivez au Ghat pour y être brûlé, vous venez ici. » La véritable nature du village en puantie m'apparaissait dès lors, et tout ce que j'avais appris ou lu de grotesque et d'horrible pâlit devant le fait qui venait de m'être communiqué par l'ex-brahmine. Il y a 16 ans, en débarquant pour la première fois à Bombay, j'avais appris de la bouche d'un vagabond arménien l'existence, quelque part dans l'Inde, d'un endroit où les hindous, qui avaient eu le malheur d'échapper à la léthargie ou à la catalepsie, étaient transportés et tenus sous bonne garde. Et je me souviens d'avoir ri de bon cœur de ce qu'il me plaisait alors de considérer comme un conte à l'usage des voyageurs. Du fond de la trappe de sable, le souvenir de Watson's Hotel, le va-et-vient de Punka, les serviteurs en robe blanche et l'arménien à face olivâtre, Tout surgit dans ma mémoire avec la netteté d'une photographie, et je partis d'un bruyant éclat de rire. Le contraste était trop absurde. Ganga Das, tout en se penchant sur l'immonde oiseau, me surveillait avec curiosité. Les hindous rient rarement, et l'ensemble des choses environnantes n'était point de nature à exciter chez Ganga Das un accès indu d'hilarité. Il retira solennellement la corneille de la broche de bois, et tout aussi solennellement la dévora. Puis, il continua son histoire, que je répète en ses propres termes. Dans les épidémies de choléra, on vous emporte pour vous brûler presque avant qu'on soit mort. En arrivant au bord de la rivière, l'air frais peut-être vous ranime. Et alors, si vous êtes seulement un peu vivant, on vous met de la boue dans le nez et dans la bouche, et en fin de compte vous mourrez. Si vous êtes un peu plus vivant, on vous met plus de boue. Mais si vous êtes trop vivant, on vous laisse en paix et on vous mène ailleurs. J'étais trop vivant, et je protestais avec colère contre les indigènes qu'ils s'efforçaient de me faire subir. En ce temps-là, j'étais brahmine et fier. Maintenant, je suis un homme mort et mange. Ici, il considéra le bréchet bien nettoyé de l'oiseau, en donnant le premier signe d'émotion que j'eusse surpris en lui depuis notre rencontre, des corneilles et d'autres choses. On me retira de mes linceuls lorsqu'on vit que j'étais trop vivant. Puis, on me donna des médicaments pendant une semaine, et je survécus heureusement. Alors, on m'envoya par voie ferrée d'où j'étais à la station d'Okara, avec un homme pour prendre soin de moi. Et à la station d'Okara, nous rencontrâmes deux autres hommes, et on nous conduisit tout droit à dos de chameau, la nuit de la station d'Okara à cet endroit-ci, et on m'imprima violemment une impulsion d'en haut jusqu'au fond, et les deux autres succédèrent. Et je suis toujours ici depuis 2 ans et demi. Jadis, j'étais brahmine et fière, aujourd'hui, je mange des corneilles. Il n'y a pas moyen de sortir d'ici? Aucune espèce de moyen. Tout d'abord, quand j'arrivais, je fis de fréquentes tentatives, comme tous les autres, mais nous avons toujours succombé sous le sable précipité sur nos têtes. Mais pour sûr, interrompis-je, le côté de la rivière est ouvert et cela vaut la peine de braver les balles, tandis qu'à la nuit... J'avais déjà mûri un plan sommaire d'évasion qu'un instinct naturel d'égoïsme m'empêchait de livrer à Ganga Das. Lui, cependant, devina ma pensée secrète, presque aussitôt formée, et à mon profond étonnement, fit entendre un long ricanement étouffé de moquerie. Le rire comprenait bien d'un supérieur ou au moins d'un égal. Vous ne pourrez pas. Il avait complètement abandonné le monsieur depuis sa première phrase. Vous échappez par là, mais vous pouvez essayer. Et j'ai essayé, moi, une fois seulement. La sensation de terreur sans nom et d'abjecte épouvante contre laquelle j'avais en vain essayé de me redire m'envahit complètement. Mon long jeûne, il était maintenant près de 10 heures et je n'avais rien mangé depuis le tiffin de la veille, de concert avec l'agitation violente et forcée de la course à cheval, m'avait exténué. Et je crois réellement que pendant quelques instants j'agis comme un aliéné. Je me ruais contre l'impitoyable talus. Je courus tout autour de la base du cratère, blasphémant et priant tour à tour. Je rampais parmi les joncs du côté de la rivière, sans autre résultat qu'une retraite brusque chaque fois, parmi des agonies de terreur nerveuse, devant les balles qui labouraient le sable autour de moi. Car je n'osais envisager la perspective d'une mort de chien enragé parmi cette hideuse foule, et tombais finalement, à bout de force et de délire, contre la margelle du puits. Personne n'avait pris garde un instant à une exhibition dont la seule pensée aujourd'hui me met encore le rouge au front. 2 ou 3 hommes marchèrent sur mon corps pantelant comme ils venaient tirer de l'eau. Mais, habitués sans doute à cette sorte de choses, ils n'avaient pas de temps à perdre à s'occuper de moi. La situation était humiliante. Ganga Das, il est vrai, après avoir recouvert de sable la braise de son feu, prit la peine de me jeter sur la tête une demi-tasse d'eau fétide, attention dont je l'eusse remercié à 2 genoux, mais il riait tout le temps, sur le même ton pitoyable et poussif qui avait accueilli ma première tentative de forcer les bancs de sable. Je restais ainsi étendu dans un état semi-comateux jusqu'à midi. Alors, n'étant après tout qu'un homme, je me sentis faim et le donnai à entendre à Ganga Das que je m'étais mis à regarder comme mon protecteur naturel. Suivant l'impulsion machinale habituelle au monde extérieur lorsqu'on s'adresse aux indigènes, je mis la main à ma poche et tirai 4 annas. L'absurdité du cadeau me frappa sur le champ et je fus sur le point de rempocher l'argent. Ganga Das, cependant, fut d'un avis différent. « Donnez-moi de l'argent, dit-il. Tout ce que vous avez, ou j'appelle à l'aide et nous vous tuons. » Tout cela comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le premier mouvement d'un sujet britannique, je crois, et de défendre le contenu de ses poches. Mais un moment de réflexion me convainquit de la futilité d'une discussion avec le seul homme qui fût en état d'améliorer ma position et avec l'aide duquel il était possible à tout prendre que je m'échappasse un jour du cratère. Je lui donnai tout l'argent que je possédais, 9 roupies, 8 anas et 5 pis. Je garde toujours sur moi de la menue monnaie pour les bakchiches lorsque je campe. Gunga Das serra les pièces dans ses doigts crochus et les cacha immédiatement dans le lambeau d'étoffe qui lui saignait les reins. Sa physionomie prit une expression diabolique, tandis qu'il regardait autour de lui pour s'assurer que personne ne nous avait observés. « Maintenant, je vais vous donner quelque chose à manger, » dit-il. Je serai incapable de dire quel plaisir pouvait lui avoir procuré la possession de mon argent, mais, sans compter l'évidente satisfaction qu'il en retirait, je ne fus pas fâché de m'en être séparé avec tant d'empressement, car je n'ai aucun doute qu'il m'eût fait tuer si j'avais refusé. On ne proteste pas contre les caprices d'un repaire de bêtes fauves, et mes compagnons étaient plus bas que des bêtes. Pendant que je dévorais les provisions de Gunga Das, un grossier chapati et une tasse de l'eau souillée du puits, les gens ne manifestèrent pas le moindre signe de curiosité, de cette curiosité qui se montre en règle générale si marquée dans un village hindou. J'aurais même pu croire qu'ils me méprisaient. En tout cas, ils me traitaient avec la plus glaciale indifférence, et Gunga Das ne valait guère mieux. Je le pressai de questions sur le terrible village, sans obtenir autre chose que des réponses extrêmement peu satisfaisantes. Autant que je pus y glaner, le village existait depuis un temps immémorial, d'où je conclus à 1 siècle au moins, et durant ce temps, on n'avait jamais eu connaissance que personne s'en fût échappé. Je dus ici me maîtriser les deux mains de peur que l'aveugle terreur s'emparât de moi une seconde fois et me jeta délirant aux parois du cratère. Gunga Das prit un malheureux plaisir à insister sur ce point et à me regarder tressaillir. Aucun effort de ma part ne put lui persuader de me dire qui étaient ces mystérieux îles. « Ils en ont ordonné ainsi, » répliquait-il, « et je ne connais personne qui ait désobéi aux ordres. »« Attends un peu seulement que mes domestiques s'aperçoivent de mon absence, » rétorquai-je, « et je te promets que ce lieu sera rayé de la face de la terre, sans compter, mon cher, une leçon de civilité que je vous devrai. » Vos domestiques seraient mis en pièces avant d'approcher de ce lieu. Et en outre, vous êtes mort, mon cher ami. Ce n'est pas votre faute, sans doute, mais vous n'en êtes pas moins mort et enterré. » J'appris qu'à des intervalles réguliers, on jetait les vivres dans le cirque, du côté de la terre. Des vivres pour lesquels les habitants se battaient comme des bêtes fauves. Quand un homme sentait sa fin prochaine, il se retirait dans sa tanière et y mourait. Quelquefois, on tirait la charogne hors du trou pour la jeter au sable, ou bien on la laissait pourrir sur place. La phrase « jeter au sable » attira mon attention, et je demandai à Gunga Das si ce genre de procédé n'avait pas chance d'engendrer une contagion. « Cela, dit-il, avec un autre de ses ricanements poussifs, vous pourrez en juger par vous-même subséquemment, vous aurez tout le temps d'observer. » Sur quoi, pour son plus grand plaisir, je frémis de nouveau et me hâtai de continuer la conversation. « Et comment vivez-vous ici d'un jour à l'autre? Que faites-vous ? » La question provoqua exactement la même réponse qu'auparavant, accouplée à ce renseignement. « Ce lieu est comme votre ciel d'Europe, personne ne s'y marie et on n'y marie personne. » Gunga Das avait été élevé dans une école de mission, et, comme il l'admettait lui-même, s'il avait seulement changé de religion en homme avisé, il aurait évité sans doute la tombe vivante qui faisait maintenant son lot. Mais tant que je me trouvais avec lui, je me figure qu'il était heureux. Il y avait là en effet un sahib, un représentant de la race conquérante, sans plus de défense qu'un enfant, et complètement à la merci de ses voisins indigènes. De propos délibérés, à sa manière indolente, il se mit à me torturer comme un écolier consacre une demi-heure de félicité à contempler l'agonie d'un anneau empalé, ou comme un furet dans un terrier aveugle se colle voluptueusement au cou d'un lapin. Le refrain de sa conversation, c'était qu'il n'y avait pas d'issue, d'aucune sorte possible, et que je resterais là jusqu'à ce que je meure et qu'on me jette au sable. Si l'on pouvait préjuger de la conversation des damnés à l'arrivée en leur séjour d'une âme nouvelle, je dirais qu'ils doivent parler comme Gunga Das me parla tout du long de ce long après-midi. J'étais impuissant à protester ou répondre, gardant toutes mes énergies ramassées pour la lutte contre l'inexplicable terreur qui menaçait de m'envahir à chaque instant. Je ne puis comparer mes sensations à rien de mieux qu'aux efforts d'un homme contre l'irrésistible nausée d'une traversée de la Manche. Seulement, ma torture était morale et infiniment plus terrible. À mesure que la journée avançait, les habitants commencèrent à paraître, bientôt au complet, afin de ne rien perdre des rayons du soleil de l'après-midi qui tombaient à 7 heures obliquement par l'embouchure du cratère. Ils s'assemblaient en petits groupes et causaient entre eux, sans même jeter un coup d'œil de mon côté. Vers 4 heures, autant que j'en pus juger, Gunganath se leva et plongea pour un instant dans son repaire, d'où il ressortit, une corneille vivante à la main. Le malheureux oiseau présentait l'aspect le plus déplumé et le plus lamentable, mais ne semblait en aucune façon redouter son maître. Gunganath gagna avec précaution le bord de la rivière, enjamba de motte en motte jusqu'à ce qu'il atteignît un carré de sable uni en pleine ligne de tir du bateau. Les gens du bateau ne firent pas attention. Là, il s'arrêta, et avec dextérité, en 2 tours de poignet, cloua l'oiseau sur le dos, les ailes étendues. Comme il n'était que naturel, la corneille se mit aussitôt à crier et à battre l'air de ses pattes. En 10 secondes, la clameur avait attiré l'attention d'un vol de corneille sauvage sur un banc de sable à quelques centaines de mètres de là, où elle se disputait quelque chose qui ressemblait à un cadavre. Une demi-douzaine de corneilles prirent tout de suite leur volée pour voir ce qui se passait. Et de plus, comme l'événement le prouva, pour attaquer l'oiseau garrotté. Gunganath, qui s'était accroupi sur une motte, me fit signe de rester tranquille, précaution, j'imagine, bien inutile. En un instant, et avant que je puisse voir comment cela était arrivé, une corneille sauvage, venue aux prises avec l'oiseau sans défense et dont les cris perçaient l'air, resta embrouillée dans ses ongles, fut prestement dégagée par Gunganath et clouée à terre à côté de sa compagne de misère. La curiosité, paraît-il, fut trop forte pour le reste de la troupe. Et à peine Gunganath et moi avions-nous eu le temps de nous éloigner de sa motte, que 2 victimes de plus se débattaient dans l'essai et retournaient des appos. La chasse, si j'ose employer ce noble nom, continua de la sorte jusqu'à ce que Gunganath eût capturé 7 corneilles. À 5, il tendit le coup sur place en réservant 2 pour les opérations ultérieures. Je fus vivement impressionné par cette méthode, nouvelle pour moi, d'assurer la subsistance, et complimenter Gunganath sur son talent. « Ce n'est rien à faire, dit-il. Demain, il faudra le faire pour moi. Vous êtes plus fort que je ne suis. » Cette calme présomption de supériorité me renversa, et je répondis péremptoirement. « Vraiment, vieux brigand que tu es? Pourquoi penses-tu que je t'ai donné de l'argent ?»« Fort bien, » fut la passible réponse. « Peut-être pas demain, ni le jour d'après, ni encore les prochains. Mais à la fin, et pour nombre d'années, vous attraperez les corneilles et mangerez les corneilles, et vous remercierez votre dieu d'Europe d'avoir des corneilles à attraper et à manger. » Je l'aurais étranglé de grand cœur pour ces mots, mais j'estimais que mieux valait, dans la circonstance, étouffer mon ressentiment. 1 heure plus tard, j'étais en train de manger l'une des corneilles, et selon le mot de Gunganath, de remercier mon dieu d'avoir des corneilles à manger. Jamais, aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai ce repas du soir. Toute la population accroupie sur la plateforme de sable dur en face de ses tanières se pressait autour de tout petits feux de brindilles et de joncs secs. La mort, qui avait une fois étendu la main sur ses hommes, puis suspendu le cou au moment de frapper, semblait maintenant s'écarter d'eux. Car la plupart de nos compagnons étaient des vieillards courbés, usés, tordus d'années, et des femmes qui paraissaient, à les voir, de l'âge des parcs même. Ils se tenaient assis ensemble par groupes et causaient. Dieu seul sait quel sujet ils pouvaient trouver à discuter, sur un ton bas, égal, en curieux contraste avec le babil strident dont les indigènes ont coutume de rendre le jour hideux. De temps à autre, un accès de la furie soudaine qui m'avait possédé dans la matinée s'emparait d'un homme ou d'une femme, et le patient, avec des hurlements et des imprécations, attaquait la rampe escarpée jusqu'au moment où, dompté, saignant, il retombait sur la plateforme, incapable de mouvoir un membre. Les autres ne prenaient même pas la peine de lever les yeux quand cela arrivait, un homme trop conscient de la futilité de pareilles tentatives et fatigué de leur inutile répétition. Je fus témoin de 4 de ces explosions dans le cours de la soirée. Gunganath envisagea ma situation au point de vue affaire, et pendant que nous dînions, je peux en rire aujourd'hui, mais c'était assez pénible sur le moment, me proposa les termes du marché d'après lequel il consentirait à faire pour moi. Mes 9 roupies, 8 anas, démontrait-il, au taux de 3 anas par jour, m'assuraient le vivre pendant 51 jours ou 7 semaines environ. C'est-à-dire qu'il consentirait à pourvoir à mes besoins pendant ce laps de temps. À son expiration, il faudrait me tirer l'affaire tout seul. Contre un plus ample déménagement, vie de lycette, mes bottes, il voudrait bien me permettre d'occuper la tanière voisine de la sienne et me fournirait en guise de litière autant d'herbes sèches qu'il en pouvait disposer. « Très bien, Gunganath, répondis-je. J'acquiesce de bon cœur aux premières conditions, mais comme rien sur la terre ne peut m'empêcher de te tuer pendant que tu es assis là et de prendre tout ce que tu possèdes, Je pensais à ce moment aux précieuses corneilles. Je refuse net de te donner mes bottes et prendrai telle tanière qui me plaira. Le coup était hardi et je fus content de voir qu'il avait réussi. Gungadas changea immédiatement de ton et renia toute intention de me prendre les bottes. Sur le moment, il ne me sembla pas étrange du tout que moi, ingénieur civil, avec mes 13 ans de service, en bon anglais j'espère, je proférasse, de sang-froid, des menaces de meurtre et de violence contre l'homme qui, sans désintéressement il est vrai, m'avait pris sous son aile. J'avais quitté le monde, me semblait-il, depuis des siècles. J'éprouvais à ce moment une conviction égale à celle que j'ai présentement de ma propre existence que, dans ce séjour maudit, il n'y avait de loi que celle du plus fort. Que ces morts vivants avaient jeté derrière eux tout le canon légal du monde qui les avait chassés, et que de ma force et ma vigilance seule ma propre vie devait dépendre. Les matelots de la fortunée mignonnette sont les seuls hommes capables de comprendre mon état d'esprit. À présent, raisonnai-je, je suis fort et je vaux 6 de ces misérables. Il est impérieusement nécessaire que pour mon propre salut, je conserve à la fois force et santé jusqu'à l'heure de ma délivrance si elle doit sonner jamais. Fortifié par ces résolutions, je mangeai et bus à satiété, et fis comprendre à Gungadas que j'entendais être le maître, et que le moindre signe de subordination de sa part recevrait la seule punition qu'il fût en mon pouvoir d'infliger, la mort immédiate et violente. Un moment après, j'allais me coucher. C'est-à-dire que Gungadas me donna une double brassée de chien dansé que j'enfonçai dans l'ouverture du premier terrier à droite du sien, sur moi-même les pieds en avant. Le trou, légèrement incliné, avec un revêtement de charpente en bon état, pénétra à 9 pieds environ dans le sable. De ma tanière qui faisait face à la rivière, je pouvais suivre du regard le courant du Sutlej sous la lumière de la jeune lune et me préparer à dormir le mieux que je pourrais. Je n'oublierai jamais les horreurs de cette nuit. Ma tanière était à peine plus large qu'un cercueil, et ses parois avaient une surface grasse et polie à l'usure et au contact d'innombrables cornues. Elle exhalait par surcroît une odeur abominable. Le sommeil restait tout à fait hors de question dans l'état de surexcitation où je me trouvais. Avec les progrès de la nuit, il me sembla que l'amphithéâtre entier s'emplissait de légions impures comme si des démons, sortis en troupe des bancs de sable là-bas, venaient railler les malheureux jusqu'au bord de leur tanière. Personnellement, je ne suis pas d'un tempérament imaginatif. Il y a très peu d'ingénieurs dans ce cas. Mais en cette occasion, je demeurais aussi complètement prostré de terreur nerveuse qu'une femme nette. Au bout d'une demi-heure, ou à peu près, je me retrouvais toutefois en état de repasser avec calme mes chances d'évasion. Tout issu par les murailles de sable, la pique était d'abord impraticable. J'en avais acquis l'entière conviction dès le début. Il était possible, tout juste possible, que, à la faveur d'une lune incertaine, j'affronte heureusement le risque des balles. L'endroit prenait pour moi un tel caractère de terreur que je me sentais prêt à braver n'importe quel danger pour en sortir. Imaginez alors mon ravissement quand, après avoir rampé furtivement jusque devant la rivière, je découvris que le bateau infernal n'était plus là. Quelques pas encore et c'était la liberté. En me dirigeant sur le bras mort qui baignait le pied saillant de la corne gauche du fer à cheval, je pouvais le passer à gué, tourner le flanc du cratère et marcher vers la terre ferme. Sans un moment d'hésitation, je dépassai rapidement les mottes où Gungadas avait tendu son piège à corneille et m'avançai dans la direction du sable blanc uni qui s'étendait au-delà. Mon premier pas, en quittant les touffes de gazon desséchées, me démontra l'absolue vanité de tout espoir d'évasion. Car, en posant le pied, je sentis un indescriptible mouvement d'aspiration de ventouse dans le sable que je foulais. En un instant, ma jambe disparaissait, engloutie presque à hauteur du genou. Dans le clair de lune, toute la surface du sable semblait danser de joie diabolique devant la déception. Je me tirai de là à grand-peine, sueur de terreur et d'effort, regagnai les mottes restées en arrière et tombai la face contre le sol. Ma seule voie d'évasion du cirque était défendue par des sables mouvants. Combien de temps restai-je là, je n'en ai pas la plus légère idée. Mais je fus réveillé à la fin par le ricanement pervers de Gungadas à mon oreille. « Je vous conseillerai, protecteur du pauvre, le bandit parlait en anglais, de retourner dans votre maison. C'est malsain de coucher ici. En outre, quand le bateau va revenir, vous vous ferez sûrement tirer dessus. » Il se penchait sur moi dans la terne lueur de l'aube, en ricanant doucement lui-même. Réprimant ma première envie de saisir l'homme par le cou et de le jeter au sable mouvant, je me levai sans rien dire et le suivis jusqu'à la plateforme au seuil des repères. Soudain, Et tout en parlant, je sentais l'inanité de ma question, je demandais. Gringadas, à quoi bon le bateau s'il n'y a vraiment aucun moyen d'échapper? Je me rappelle qu'au plus profond de mon angoisse, j'avais été hanté vaguement par l'idée du gaspillage de munitions que représentait la garde d'une rive bien couverte déjà. Gungadas rit encore et répondit. Ils n'ont le bateau que dans le jour. C'est parce que il y a un moyen. J'espère que nous aurons le plaisir de votre compagnie longtemps encore. C'est un endroit fort agréable quand on y est resté quelques années et qu'on a mangé des corneilles rôties pendant assez de temps. Hébété, sans plus de résistance, je gagnai en chancelant le terrier fétide qui m'était échu, et je m'endormis. Une heure plus tard environ, je fus réveillé par un cri perçant. Le cri aigu et déchirant d'un cheval blessé. Ceux qui l'ont entendu une fois n'en oublient jamais le son. J'éprouvais quelques difficultés à ramper hors du terrier. Une fois dehors, je vis Pornic, mon pauvre vieux Pornic, étendu mort sur le sable. Comment l'avait-il tué? Je ne puis le conjecturer. Gungadas expliqua que la viande de cheval valait mieux que les corneilles et que le plus grand bien du plus grand nombre est une maxime politique. Nous sommes ici une république, Mr. Jux, et vous êtes autorisé à prendre une juste part de la bête. Si vous voulez, nous vous voterons des remerciements. Je propose le vote. Oui, nous étions une république en vérité. Une république de bêtes fauves, parquées au fond d'un trou pour manger, se battre et dormir jusqu'à l'heure de la mort. Je ne tentais aucune espèce de protestation et me bordais à m'asseoir en fixant mes yeux fascinés sur le hideux spectacle que j'avais devant moi. En moins de temps peut-être qu'il ne m'en faut pour l'écrire, le corps de Pornic fut partagé par quelque ignoble procédé. Les hommes et les femmes entraînaient les débris sur la plateforme et préparaient leur repas du matin. Gungadas faisait ma cuisine. Le besoin presque irrésistible de fondre à nouveau sur les murailles de sable jusqu'à épuisement complet s'empara de moi, et je n'eus pas trop de toute ma force pour me contraindre. Gungadas se montra d'un facétieux offensant jusqu'au moment où je lui déclarai que, s'il m'adressait une autre observation, quelle qu'elle fût, je l'étranglerais sur place. Cela le fit taire, puis le silence devint insupportable, et je lui ordonnai de dire quelque chose. « Vous vivrez ici, jusqu'à ce que vous mouriez, comme l'autre Ferengi, » dit-il froidement, en me guettant par-dessus les débris du cartilage qu'il rongeait. « Quel autre sahib, espèce de porc ! Réponds vite, et ne t'arrête pas pour chercher un mensonge !»« Il est là-bas !» répondit Gungadas en désignant l'ouverture d'un terrier à quatre portes environ à la gauche du mien. « Vous pouvez voir vous-même, il est mort dans le terrier comme vous mourrez, comme je mourrai, et comme tous ces hommes et ces femmes et l'enfant mourront aussi. »« Pour l'amour de Dieu !» Dis-moi tout ce que tu sais sur lui. Qu'était-il? Quand vint-il? Et quand est-il mort? Cet appel était une faiblesse de ma part. Gungadas se continua de cligner de l'œil et répliqua « Je ne dirai rien. À moins que vous ne me donniez d'abord quelque chose. » Je me rappelai alors où j'étais, et je frappai l'homme entre les yeux, l'étourdissant à demi. Il dégringola sur le champ de la plateforme et, rampant, pleurant, servile, avec les tentatives de me baiser les pieds, il me conduisit jusqu'au terrier qu'il m'avait désigné. Je ne sais rien absolument sur le gentleman. Votre Dieu soit témoin que c'est vrai. Il était aussi pressé que vous de s'échapper, et il reçut une balle du bateau. Pourtant, nous avons tout fait pour l'empêcher d'essayer. Il reçut la balle ici. Gungadas mit la main sur son ventre creux et se courba jusqu'à terre. Bien, et après, continue. Et après, votre honneur, nous l'avons transporté dans sa maison. Lui avons donné de l'eau, et avons mis des linges mouillés sur la blessure, et il resta couché dans sa maison et rendit l'esprit. Après combien de temps? Une demi-heure environ après avoir reçu sa blessure, j'en prends Vishnu à témoin, hurla le misérable. J'ai fait tout pour lui, tout ce qui était possible, je l'ai fait! Il se jeta sur le dos et étreignit mes chevilles. Mais j'avais mes doutes sur les sentiments de charité de Gungadas, et le repoussai du pied tandis qu'il restait par terre à renouveler ses protestations. Je suis sûre que tu lui as volé tout ce qu'il avait, mais je peux m'en assurer dans une minute ou deux. Combien de temps le sahib est-il resté ici? Presque un an et demi. Je crois qu'il était devenu fou. Mais écoutez mon serment, protecteur du pauvre. Votre honneur ne veut-il pas écouter mon serment, que je n'ai jamais touché à un seul des objets qui lui ont appartenu? Qu'est-ce que votre honneur va faire? J'avais pris Gungadas par la ceinture et l'avais traîné sur la plateforme en face du terrier abandonné. Dans le même temps, je pensais à l'inénarrable misère de mon malheureux frère de captivité parmi toutes ces horreurs pendant 18 mois. Et à l'agonie finale, cette mort de rat dans son trou, avec une balle dans le ventre. Gungadas s'imaginait que j'allais le tuer et hurlait pitoyablement. Le reste de la population, dans l'engourdissement qui succède à un copieux repas de viande, nous regardait sans bouger. Entre, Ganganas, et rapporte-le. Je me sentais maintenant comme des nausées d'horreur et prêt à défaillir. Ganganas roula presque à bas de la plateforme et hurla. Mais je suis Brahmine, Sahib, Brahmine de haute caste. Sur votre âme, sur l'âme de votre père, ne me faites pas faire une pareille chose. Brahmine ou non, sur mon âme et sur l'âme de mon père, tu entreras, dis-je. Et le saisissant par les épaules, je lui ferai la tête dans l'embouchure du terrier, fis entrer à coups de pied le reste de son individu, et m'asseyant, je cachai mon visage dans mes mains. Au bout de quelques minutes, j'entendis un frôlement, quelque chose qui craquait. Puis, Ganganas qui se parlait à lui-même en un murmure étranglé de sanglots. Puis, un choc mou, et je découvris mes yeux. Le sable sec avait transformé le cadavre confié à sa garde en momie d'un jaune brun. Je dis à Ganganas de se tenir à l'écart pendant que je l'examinais. Le corps, revêtu d'un costume de chasse vert olive tout usé, plein de taches et garni de cuir aux épaules, était celui d'un homme de 30 à 40 ans, d'une taille au-dessus de la moyenne, aux cheveux roux clairs, à la barbe inculte et rude. La canine gauche de la mâchoire supérieure manquait, et une partie du lobe de l'oreille droite avait disparu. Au second doigt de la main gauche restait une bague, une hématite en forme d'écu montée en or avec un chiffre. Cela pouvait être soit BK, soit BL. Au troisième doigt de la main droite se roulait une bague d'argent en forme de cobra, usée et noire. Ganganas déposa à mes pieds une poignée de bibelots qu'il avait sorti du terrier, et couvrant de mon mouchoir le visage du cadavre, je me retournai pour les examiner. Je donne la liste complète dans l'espoir qu'elle puisse servir à identifier la fortunée. Premièrement, le fourneau d'une pipe en bois de bruyère dentelée au bord, très fatiguée et noircie, la vis entourée de ficelles. Deuxièmement, deux clés de fabrication anglaise, les gardes de toutes deux brisées. Troisièmement, un canif à manche d'écaille avec une plaque en argent ou en nickel portant le monogramme BK. Quatrièmement, une enveloppe, le cachet de la poste indéchiffrable, portant un timbre anglais à l'adresse de Miss Mon, le reste illisible, Ham Nt. Cinquièmement, un carnet de notes en imitation de peau de crocodile avec crayon. Les 45 premières pages blanches, 4,5 illisibles, 15 autres remplies de mémorandums intimes, se rapportant principalement à trois personnes. Une, Mrs. L. Singleton, au nom plusieurs fois abrégé en Lot Single. Mrs. S. May, et un certain Garnison, auquel il est fait allusion incidemment sous le nom de Jerry ou de Jack. Sixièmement, le manche d'un couteau de chasse de petite dimension, la lame cassée court, corne de daim taillée en diamant, avec porte-mousqueton et anneau à l'extrémité, fragment de corde de coton y attaché. Il ne faut pas supposer que je fis de toutes ces choses, sur le moment, un inventaire aussi complet que j'y mis sur le papier. Le carnet de notes attira d'abord mon attention, et je le mis dans une poche avec l'intention de l'étudier plus tard. Je transférai le reste des objets dans mon terrier pour plus de sûreté, et c'est là que, en homme méthodique, je les inventoriais. Je retournai alors auprès du cadavre, et ordonnai à Ganganas de m'aider à le transporter vers la rivière. Pendant que nous procédions à ce soin, l'enveloppe vide d'une vieille cartouche brune tomba d'une des poches et roula à mes pieds. Ganganas ne l'avait pas vue, et je me mis à réfléchir qu'un homme ne promène pas les études de cartouches vides, spécialement des brunes, qu'on ne peut pas changer deux fois, quand il est à la chasse. En d'autres termes, c'était l'étui d'une cartouche qui avait été tirée à l'intérieur du cratère. Par conséquent, il devait y avoir un fusil quelque part. Je fus sur le point de questionner Ganganas, mais je me retins, sachant qu'il mentirait. Nous étendîmes le corps près des mottes d'herbe au fond des sables mouvants. J'avais l'intention de l'y pousser afin de l'engloutir, seul mode possible dans ce vélissement auquel je pus songer. J'ordonnai à Ganganas de s'en aller. Puis, je déposai doucement le cadavre sur le sable mouvant. En le posant ainsi la face contre terre, je déchirai le kaki fragile et pourri de la veste de chasse. En s'ouvrant, il découvrait dans le dos du corps une hideuse cavité. Je vous ai déjà dit que le sable sec avait en quelque sorte momifié le cadavre. Je vis en un clin d'œil que le trou béant provenait d'un coup de fusil qui devait avoir été tiré presque à bout portant. Le vêtement de chasse, intact, avait été ramené sur le corps après la mort qui avait dû être instantanée. En un éclair, le secret de la fin du malheureux m'apparaissait dans sa simplicité. Quelqu'un du cratère, Ganganas probablement, devait l'avoir tué avec son propre fusil, le fusil aux cartouches brunes. Il n'avait jamais tenté de fuir en face, affrontant le feu du bateau. Je me dépêchais de donner une poussée au cadavre et frémis en le voyant sombrer, disparaître littéralement en quelques secondes. La tête pesante et à demi conscient de mes actes, je m'émis à feuilleter le carnet de notes. Une bande de papier taché et décoloré avait été insérée entre la reliure et le dos et tomba lorsque j'ouvris les pages. Voici ce qu'elle contenait. 4 en avant à partir de la motte aux corneilles. 3 à gauche, 9 en avant, 2 à droite, 3 en arrière, 2 à gauche, 14 en avant, 2 à gauche, 7 en avant, 1 à gauche, 9 en arrière, 2 à droite, 6 en arrière, 4 à droite, 7 en arrière. Le papier avait été brûlé et noirci sur les bords. Ce que le tout signifiait, je n'arrivais pas à le comprendre. Je m'étais assis sur le chiendon desséché en tournant et retournant le document entre mes doigts. Tout à coup, j'eus la sensation de Gagadas derrière moi tout près, les yeux flambants et les mains tendues. « Vous l'avez trouvé ? » dit-il en haletant. « Voulez-vous me permettre de le regarder aussi ? Je jure de vous le rendre. »« Trouver quoi ? Rendre quoi ? » demandai-je. « Ce que vous avez de les mains. Cela nous aidera tous deux. » Il étendit ses longs doigts en serre d'oiseau, tout tremblant de convoitise. « Je n'ai jamais pu le trouver, » continua-t-il. « Il l'avait secrètement caché sur sa personne. C'est pourquoi je l'ai tué. » Mais néanmoins, j'étais incapable de rien trouver. Gungalas avait tout à fait oublié son petit conte à propos de la balle de fusil. Je reçus l'aveu avec le calme le plus parfait. La moralité s'émousse au contact des morts qui sont vivants. Que diable radotes-tu ? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? La page du carnet de notes. Nous en profiterons tous deux. Oh, idiot que vous êtes, idiot ! Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire pour nous ? Nous pourrons fuir ! Sa voix monta presque au diapason d'un cri, et il dansait de surexcitation devant moi. J'avoue que je fus remué à l'idée d'une chance de sortir de là. « Ne saute pas, explique-toi. Faut-il dire que ce bout de papier nous aidera ? Qu'est-ce que cela signifie ? Lisez tout haut, je vous implore et vous supplie de lire tout haut. » J'acquiesçai. Gungadas écoutait avec délice, tout en traçant du doigt une ligne brisée dans le sable. Voyez maintenant. C'était la longueur des canons de son fusil sans la crosse. Je lisais ces canons. 4 canons de fusil en avant à partir de l'endroit où j'ai pris les corneilles. Tout droit devant. Vous me suivez ? Puis 3 à gauche. Ah, comme je rappelle bien cet homme lorsqu'il peinait à chercher cela chaque nuit après l'autre. Puis 9 en avant et ainsi de suite. En avant ? C'est toujours droit devant vous, à travers le sable mouvant. Il me l'a dit avant que je le tue. Mais si tu savais tout cela, pourquoi n'es-tu pas déjà parti ? Je ne le savais pas. Il me disait qu'il y travaillait il y a 1 an et demi, comme quoi il y travaillait toutes les nuits, quand le bateau était parti, et qu'il pouvait approcher du sable mouvant. Il disait alors que nous nous en irions ensemble. Mais j'avais peur qu'il me laissât derrière lui, une nuit, quand il aurait fini et tout trouvé. Aussi l'ai-je tué. En outre, il ne convient pas que les hommes qui sont une fois venus ici s'échappent. Moi seul, parce que moi, je suis un brahmine. La perspective de s'évader avait rappelé sa caste à Gungadas. Il se campait debout, marchait et gesticulait violemment. À la fin, je parvins à le faire parler de sang-froid, et il me dit comment cet Anglais avait passé 6 mois, une nuit après l'autre, à explorer, pouce par pouce, le passage à travers le sable mouvant, comment il avait déclaré que c'était la simplicité même jusqu'à 20 mètres environ du bord de la rivière, après avoir doublé de flanc la corne gauche du fer à cheval. Cette dernière partie de l'itinéraire restait évidemment incomplète, quand Gungadas l'avait tué avec son propre fusil. Dans la frénésie de ma joie, à la possibilité de m'échapper, je me rappelle avoir serré avec effusion les mains de Gungadas. Nous venions d'en décider, nous tenterions de fuir cette nuit même. Cet après-midi d'attente nous parut interminable. Vers 10 heures, autant que j'en pus juger, et comme la lune à son lever touchait la lèvre du cratère, Gungadas se dirigea vers son terrier pour y prendre les canons de fusil destinés à mesurer notre route. Tous les autres misérables étaient depuis longtemps retirés dans leur tanière. Le bateau de garde avait disparu en aval quelques heures auparavant. Nous étions absolument seuls auprès de la motte aux corneilles. Gungadas, en transportant les canons de fusil, laissa glisser le morceau de papier qui nous venait nous servir de guide. Je m'arrêtai en hâte pour le reprendre, et ce faisant, j'eus conscience que le diabolique brahmine s'apprêtait à m'assommer avec les canons de fusil d'un coup violent à la base du crâne. Il était trop tard pour me retourner. Je dus recevoir le coup quelque part sur la nuque. 5000 étoiles de flammes dansèrent devant mes yeux, et je tombai en avant, sans connaissance, au bord du sable mouvant. Quand je repris mes sens, la lune descendait, et je sentais une douleur insupportable derrière la tête. Gungadas avait disparu et j'avais la bouche pleine de sang. Je me recouchais en souhaitant mourir sans plus de peine. Puis la fureur irraisonnée dont j'ai parlé antérieurement s'empara de moi, et je me dirigeais en chancelant vers les murailles du cratère. Il me sembla que quelqu'un m'appelait tout bas. « Sahib, Sahib, Sahib !» Exactement comme mon domestique m'appelait le matin. Je crus délirer, mais une poignée de sable tomba à mes pieds. Alors, je regardai en l'air et aperçus une tête qui cherchait à voir dans l'amphithéâtre. La tête de Dannou, mon valet de chien et le surveilleur de mes coulis. Aussitôt qu'il eut attiré mon attention, il leva la main et me montra une corde. Je lui fis signe, en titubant de ci de là tout le temps, de la jeter. C'était deux cordes de bunka, en cuir, nouées ensemble avec une boucle à un bout. Je passai la boucle par-dessus ma tête, sous les aisselles, entendis Dannou commander. En avant, eu conscience de me sentir tirée, la figure en bas vers la crête du talus escarpé, et l'instant d'après me retrouver, la bouche pleine de sable et à moitié évanouie sur les dunes qui dominaient le cratère. Dannou, dont le visage tourné au gris cendre dans le clair de lune, me supplia de ne pas rester là et de regarder et m'attendre sur l'heure. Il paraît qu'il avait suivi l'empreinte des sabots de Pornic pendant 14 000 à travers les sables jusqu'au cratère, qu'il était retourné prévenir mes serviteurs, lesquels avaient refusé nettement d'avoir rien à faire avec qui que ce fût, blanc ou noir, une fois tombé dans le hideux village de la mort. Sur quoi, Dannou avait pris un de mes poneys, deux courroies de Bunka, était revenu au cratère et m'en avait tiré comme je l'ai décrit. Pour en finir avec cette longue histoire, Dannou est maintenant mon serviteur personnel, à un morure d'or par mois, somme que je considère encore beaucoup trop faible pour les services qu'il m'a rendus. Rien au monde ne me ferait retourner auprès de cet endroit diabolique, ni en révéler la place plus clairement que je ne l'ai fait. De Gungadas, je n'ai jamais trouvé trace, ni ne le désire. Le seul motif qui me fasse livrer ceci à la publicité, c'est l'espoir qu'on puisse un jour identifier, d'après les détails et l'inventaire que j'ai donné ci-dessus, le cadavre de l'homme au costume de chasse vert olive.